Nous sommes le mercredi 27 décembre 2023, il sont 11h. Nous rendons grâce à Dieu pour nous accorder le souffle de vie, l'énergie de nous accompagner au Club La Presse durant 85-90 minutes, émission que vous suivez avec nous sur les ondes de Canal FM, mais également sur les antennes des radios partenaires, Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Courtoisia d'Apan, mais également les radios numériques, Ebene Radio, Radio Le Bénin, qui nous relaient un peu partout dans le monde. Nous n'oublions pas l'application Canal FM, ni la chaîne YouTube. Émission réalisée et mise sur toutes ces différentes ondes par Victor Gbé, Michel Tomega et Jérôme Kodjo Akucha. L'émission que nous co-animons aujourd'hui avec trois confrères, en attendant de nous ouvrir sur vous sur le coup de midi quand vous allez composer le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Avant de lancer les hostilités en toute confraternité, nous choisissons de partager comme pensée du jour ce credo de la jeune chambre économique qui dit ceci: servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Encore une fois, servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Donc, plateau avec Abbas Issaka, Jaloux pour les Antilles. Bonjour.
Bonjour Jaloux, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Oui.
Un coucou à notre ami commun,
Yamba. Ouais. Sylvestre Kokou Béni du journal La Manchette. Bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs et évidemment auditrices de Canal FM.
Naturellement. Et puis le troisième confrère aujourd'hui au studio, c'est Fabrice Patom Pétézi. Bonjour.
Bonjour à toi, Sas. Bonjour aux confrères ici présents. Bonjour également à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Merci. Au menu, nous allons revenir sur quelques faits de cette fin d'année, notamment ce que nous sous-titrons un cadeau de Noël, et puis quelques échos de la fête de Noël en attendant le nouvel an. Nous allons revenir sur les suites de ces funestes incendies qui dévastent nos marchés et autres entités commerciales ces derniers temps. Et puis la manchette qui nous transporte un peu à la Fédération Togolaise de Football avec le congrès de cette fédération dans quelques semaines, quelques mois. Et puis le confrère, le libéral, qui partage avec nous quelques traits du nouveau visage de la fonction publique, tel que le gouvernement en a débattu il y a quelques jours. Mais Fabrice, si tu permets, je voudrais que tu sois notre porte-parole auprès de ce journal. Si je ne m'abuse, il doit être le plus ancien journal privé qui paraît
chaque mercredi.
Oui. C'est La Dépêche. 30 ans d'un journal privé au Togo, il faut le faire. Et l'aîné, le toujours jeune Apollinaire Moenem essaie de tenir cet trajet. Eh bien, Fabrice, tu es le porte-parole du Club de la Presse pour La Dépêche, son directeur, pour leurs 30 ans de vie.
Oui, je crois que quand vous êtes journaliste et surtout vous avez côtoyé un peu la presse écrite au Togo, vous comprenez que lorsqu'on vous dit qu'un journal a totalisé 30 années de parution sans discontinu, je crois que ça mérite des félicitations. Sas, tu as eu à diriger un journal écrit. Abbas est ici, c'est quelqu'un de la vieille garde. Et puis notre jeune frère également qui a commencé ses armes il y a quelques années. Et moi-même, j'avoue que c'est le plus dur à faire avec la presse écrite, où il faut mobiliser beaucoup de moyens. Et félicitations vraiment au journal La Dépêche. Félicitations pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que le Togo, contrairement aux autres pays de la sous-région parlant du monde de la presse, a une particularité. nous avons une presse très jeune. C'est-à-dire que c'est difficile. Ailleurs, vous allez voir des journaux qui totalisent, bon, je ne vais pas parler de l'Occident, où des journaux totalisent des siècles d'existence. Je veux du côté de l'Afrique, vous allez dans des pays comme le Sénégal, vous voyez des journaux qui ont plus de 50 ans. Et donc, au niveau du Togo, on a constaté quand même que les journaux très souvent ont une vie un peu éphémère. Et quand vous prenez pratiquement les années 90, tous les journaux qui étaient sur le marché dans les kiosques dans les années 90, vous allez constater que tous ont pratiquement disparu. Et ça pose un problème. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que il n'y a pas une certaine continuité. C'est pour cela, aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart des rédactions, vous trouvez que des gens très jeunes qui sont arrivés. Alors qu'ailleurs, vous allez dans des rédactions, vous trouvez des rédacteurs en chef avec des cheveux grisonnants, ça voudrait dire qu'ils ont une certaine parcours. Et ça pose également un autre problème par rapport à la carrière du journaliste lui-même. Vous allez voir que les gens travaillent, à part les médias audiovisuels qui tiennent, mais pas tous, parce qu'on a vu des radios fermées, les télés, n'en parlons pas, mais au niveau des journaux écrits, c'est vraiment très éphémère, et c'est pour cela, quand aujourd'hui, on vous dit que la Dépêche a fait 30 ans, j'avoue que ça mérite vraiment des félicitations et j'espère que les journaux qui sont actuellement et qui paraissent plus ou moins régulièrement pourront tenir pendant longtemps ce parcours-là parce qu'il n'est pas vraiment facile sous nos yeux.
Merci Doyen, toujours jeune Apollinaire Moenamessé, tu as toutes les félicitations confraternelles du Club La Presse pour ce jubilé de perles, 30 ans dans la vie de la Dépêche, tu essaies de le faire, tu vas continuer à le faire. Malheureusement, les journaux de l'ère démocratique qui avaient un certain ton, un certain élan, nous les avons perdus. Ainsi, La Parole, Papa Désenchanté, Courrier du Golfe, Forum Hebdo, Ibanou Express, La Tribune des Démocrates, Le Combat du Peuple, Carrefour, et ces derniers temps, Forum de la Semaine, et sans les citer de façon exhaustive, tous ces journaux qui ont alimenté le paysage médiatique qui meurt comme ça. J'espère vivement qu'il n'en sera pas le cas pour La Manchette, pour le Mania Libéré, pour Le Libéral et tous ces journaux qui défilent ici au Club de la Presse. Comme l'a dit Fabrice, quand vous allez dans les grandes rédactions, vous avez des journalistes de 60 ans, 70 ans, 80 ans, et c'est comme le vin. Ouais. Plus il dure, ouais, plus il se bonifie. Nous aussi, nous sommes trop jeunes, nous, les hommes et les femmes, nous travaillons dans des organes également trop jeunes, un peu également trop fragiles, d'où un peu quelques insuffisances de notre corporation. Donc, nous sommes conscients, nous-mêmes, monsieur le président de l'OTM.
Oui, nous sommes conscients de cette situation. Et je crois que c'est véritablement une entreprise de presse bien organisée parce que moi, je fais partie de la commission de gestion de l'aide de l'État à la presse. Et j'avoue que c'est une petite anecdote. J'ai été quand même surpris qu'en parcourant le dossier de la Dépêche, une fois, j'ai retrouvé des bulletins de paye avec des gens qui sont déclarés à la caisse. Je me suis dit, ah bon? Pour une presse écrite, il y a des bulletins de paie. J'avoue que c'est une organisation qui m'a séduite. Et vous comprenez, vous, si vous demandez aussi, le siège aujourd'hui du journal La Dépêche, il est pratiquement, je sais pas s'il a changé, il est pratiquement resté au même endroit pendant longtemps. Ce n'est pas lui qui a construit. Donc, cela voudrait dire qu'il y a eu quand même derrière une organisation. Et je crois que Mme Messer fait partie des rares. Il doit être de la promotion des Ovodévi et Sogoyu Kegewe pour la toute première expérience avec l'école de journalisme au Togo. Ouais. Et il a fait un DSS en journalisme, ça il le dit pas. Quand je l'ai découvert aussi, j'ai été surpris, il l'a fait à Paris. Donc cela voudrait dire que c'est quelqu'un, vous voyez, vu son âge et les diplômes qu'il avait déjà à l'époque, il aurait préféré aller à d'autres fonctions. Parce qu'il avait quand même un bagage intellectuel qui lui permettait, parce que quand vous prenez l'âge de Mme Messer et qu'il vous dit qu'il avait un DSS à son jeune âge, ça voudrait dire qu'il était capable d'aller à d'autres fonctions, même à l'international. Même si entre-temps, il a assuré des charges au niveau de la Chambre de commerce. Son journal a continué par paraître et quand il est allé à la retraite, il a repris le journal. Cela montre combien de fois il avait vraiment la passion pour ce métier et ça fait il fait partie des journalistes vraiment. Même si on peut dire que l'indépendance n'existe pas, il fait partie des journalistes indépendants.
Merci, encore une fois, chapeau à la Dépêche. Mais rendons hommage au tout premier journal de l'ère démocratique, le journal par lequel nous sommes tous nés. Il s'appelait Écho de la CNDH, Écho de la Commission nationale des droits de l'homme. C'était déjà en 1989, s'il vous plaît. Et les patrons de ce journal s'appelait Maître Yaovi Agboibo, qui était le président de la CNDH, qui avait comme vice-président M. Aboudou Assouma, et ils avaient comme collaboratrice directe Mme Awanana Dabouya, et leur secrétaire administratif s'appelait Artem Seliagoji Aoumé Zounou.
C'était du lourd.
Sylvestre Béni, pour dire comme nos ancêtres que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle.
Oui, c'est cela. Lorsqu'on voit cette équipe-là, c'est une équipe qui fait rêver. Lorsqu'on voit donc le parcours et le bagage intellectuel donc de toutes ces personnes citées, c'est vrai que deux d'entre eux sont déjà partis et paient alors.
Boy et Assouma, qui étaient les meilleurs amis du monde.
Qui étaient les meilleurs. Oui, meilleurs, nonobstant leur bord politique, ils partagent pas quand même la même longueur. Ils sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne donc la politique, mais ils sont restés donc des amis et tout. Oui, vivement que cela puisse nous inspirer, nous, la jeune garde, la génération qui suit. Et on espère, mais aujourd'hui, avec les pesanteurs actuels, il faut beaucoup plus de moyens. Ça, je ne le cache pas. Pour faire la presse écrite au Togo, il faut avoir donc les reins solides, il faut avoir beaucoup plus donc de moyens aujourd'hui, malheureusement. Mais on espère qu'avec l'aide de Dieu, l'engagement, la volonté, on arrivera.
Peut-être que le juge Stronvi, qui préside actuellement la CNDH, pourrait nourrir, pourquoi pas, l'idée d'avoir un magazine de la CNDH, comme les Échos de la CNDH, aujourd'hui disparu. Mais la CNDH pourrait avoir de nouveau un magazine, un organe, par lequel elle publierait ses activités, ses projets, etc. Oui, et Abba Sissaka, oui. Toi tu vas être notre porte-parole pour remercier, pour saluer les auditeurs. Et Dieu seul sait si nous en comptons un certain nombre au Togo, en Afrique et dans le monde. Mais où nous choisissons aujourd'hui, comme tout choix est arbitraire, nous choisissons aujourd'hui Monsieur Masike Komi Kamala. Il a travaillé à l'ancienne BTCI, il est retraité, mais il me rassure qu'il écoute tous les jours le club de la presse, aussi bien en direct qu'en différé. Eh bien, pour cela, Abba Sissaka, un petit message à lui.
Ouais, un petit grand message même à lui, parce que c'est pas facile que quand quelqu'un est en train de travailler, l'heure de l'émission Canal est... L'émission Club de la Presse arrive. Les gens, on a l'impression que beaucoup s'arrêtent, les activités s'arrêtent pour écouter ce que nous disons et nous faire même des remarques après. Donc je pense que nous allons les remercier très sincèrement pour cette fidélité à notre émission Club de la Presse. Et j'espère qu'ils vont continuer par nous suivre et par nous faire des remarques. Mmh. Très important pour que nous puissions les corriger, s'il y en a à corriger, et à l'avenir, parce que nous aussi, nous faisons un travail un peu très compliqué. Le président de l'OTM l'a dit tout à l'heure, Sylvestre aussi l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de faire la presse, d'aller chercher les informations et de venir les donner. Et ce n'est pas facile aussi pour les auditeurs et les lecteurs.
Je vous dis, quand on est très jeune et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, les conditions dans lesquelles nous travaillons,
c'est ça. Et ce n'est pas facile aussi pour les auditeurs de prêter attention à tout ce que nous disons et de nous dire que ce que vous avez dit aujourd'hui, là, ce n'est pas bien. Il faut corriger ça. Je pense qu'ils vont nous suivre et nous corriger dans toutes les erreurs que nous faisons.
Merci quand de nous écouter en direct quand et en les, diffusion. Quand il faut le faire.
Quand tu citais les journaux qui étaient mis après la CNDH en 89, il y avait également Atopani Express.
Atopani
Express. C'était le premier journal, même privé, en 89, où le travail était totalement difficile. Parce qu'il n'y avait pas nos imprimantes telles que nous avons. Il n'y a pas de machine ordinateur. Oui. C'est sur les machines à taper 1, 2 là qu'on faisait. Et après, on faisait le montage sur la table pour coller. Et lorsque vous voyez les premiers numéros de Atopani Express, vous allez vous dire que vraiment, il y avait de la technicité. Parce que il n'y a pas quelque chose pour vous dire.
Il n'y avait pas les calques.
Il n'y avait pas les calques, tout ça.
Tu as beau être jeune, mais tu as les pieds vraiment dans la corporation.
Non, ça, si tu le permets, dans la logique donc, du doyen, il y a monsieur Kiki, que je n'ai jamais vu, mais qui est aussi un fidèle du Club de la Presse, dont les infos nous reviennent très souvent. Il connaît pas que tous les journalistes qui passent ici de lundi à vendredi, il la voit souvent, me saluer et tout. C'est vrai que je l'ai jamais vu, mais on aura quand même l'occasion de nous voir. Donc, monsieur Kéké, si tu nous écoutes, félicitations à toi.
Merci, merci. Une pensée à certains de nos anciens confrères, comme Gabriel Aga, qui faisait Forum Hebdo, je ne sais pas là où il est maintenant. Les frères Omao, qui faisaient Courrier du Golfe. Et puis nous avions également un confrère qui était rédacteur en chef du journal La Tribune des Démocrates. Vous rappelez son nom ?
Jean-Pierre Fabre.
Venons maintenant au présent avec ce cadeau de Noël qui a été offert aux populations de la localité de Sanlé-Guidji. Je vais y arriver. Sanlé-Guidji-Moni. C'est une localité dans le Grand Nord, dans la région des Savanes. C'est cette localité qui a réceptionné le 21 décembre dernier ce qu'on peut appeler un cadeau de Noël. Il s'agissait de la remise d'ouvrages d'eau et d'assainissement aux communautés de la localité. Quand vous êtes dans ces régions-là, tout le problème de l'eau. Et quand on vous offre de l'eau avec... tout ce qui accompagne l'assainissement, c'est un véritable cadeau qui consistait à renforcer la sécurité nutritionnelle, l'accès aux services sociaux de base et l'éducation des enfants dans les préfectures de la région des Savanes affectées par la crise du Sahel au Togo. La cérémonie avait été présidée par le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Atim Tchaboré, à ne pas confondre avec un certain Bourema Tchaboré, Atim Tchaboré, qui a présidé la cérémonie au nom de son ministre. Eh bien, ces infrastructures vont servir un total de 122 000 personnes, dont plus de 32 000 femmes et 58 000 enfants. C'est pour connaître un peu la région, nous choisissons de parler de cette remise, parce que ça va soulager un peu les peines des populations. Et ces infrastructures remises aux populations le 21 décembre dernier participent au programme d'urgence renforcement de la résilience des populations, le PURS, qui redonne une lueur d'espoir au sein des communautés souvent confrontées aux rigueurs de la nature, pauvreté, manque d'infrastructures socio-collectives, menaces terroristes, etc. Sylvestre Béni, ça nous rejoint dans notre pensée du jour, qui est le cadeau de la jeune chambre économique qui dit « Servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie ».
Je crois que ça se passe de tout commentaire. Cette région a été quelque peu, entre guillemets, peut-être délaissée, parce que surtout du fait du manque d'eau potable dans la région et tout. Maintenant, s'il y a quand même ces gens d'initiative, je crois que c'est à saluer, à encourager. Il faudrait quand même que d'autres produits se suivent pour que nos frères et sœurs qui n'ont pas choisi d'être là, qui sont donc dans cette région, comme vous l'avez rappelé, menacés encore par les cellules terroristes, pour qu'ils puissent quand même retrouver un peu de sourire.
Et ceux qui nous écoutent, ceux qui écoutent la presse sur les antennes de Radio Courtoisie, nous, vous. Et nous glissons à quelques échos de la fête de Noël, telle que nous l'avons célébrée il y a déjà trois jours ou deux jours. Nous avons célébré la Noël le 5 novembre, nous sommes aujourd'hui le 27 décembre. avec le confrère La Lanterne, qui écrit, lui, à la page 4, que la fête de la nativité n'a pas tenu ses promesses. Le journal écrit que les Togolais ont célébré la Noël dans une morosité sans précédent. Et puis c'est le même journal qui, à la page 7, écrit « Le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio débordé par des cas d'accident. » Et l'article dit que dans la nuit du 24 au petit matin du 25 décembre dernier, le CHU Le Métocoin a enregistré 5 morts, plus un nombre important de blessés graves dans un état critique. Et parmi ces morts et blessés, on a noté un jeune homme mortellement poignardé lors d'une dispute pour une affaire de petite amie. Eh oui. Une autre jeune fille grièvement blessée lors d'une fête qui a mal tourné. Mais le gros lot, c'est les victimes des accidents de la route. Hein, et les causes, c'est excès de vitesse, conduite, état d'ébriété. Alors, s'il en a été pour le 25 décembre, qu'est-ce qu'il en serait pour le nouvel an ? Abbas Issaka ?
Ouais, ça fait un peu dommage parce que c'est ce qu'on dit qu'on veut fêter. Et les gens vont jusqu'à fêter, à se donner la mort. Alors que tout le temps, on a toujours donné dans ce ici, on a sensibilisé pour dire, après les fêtes, il y a une vie. Parce que certains disent que même si tu prends un petit verre de souravi et que tu ne peux pas conduire, ça n'est pas obligé de sortir avec ta moto ou bien ta voiture pour te créer des accidents. Enfin, ces genres de choses, c'est des morts inutiles qu'on a enregistrées encore. C'est des décès qui pouvaient être évités. Et c'est des accidents également qu'on pouvait éviter pour cette fête de Noël. Comme tu l'as dit, on a parlé de la fête des enfants. Qu'en sera-t-il pour le 31 et le 1er prochain? Mm-hmm. Donc, les gens n'ont qu'à prendre leur patience, n'ont qu'à être responsables. Ils n'ont qu'à être responsables pour dire, si tous les jours c'est la fête pour moi, il ne faut pas choisir un jour pour dire que c'est aujourd'hui je vais fêter, je vais boire. Mais si on n'a pas l'argent pour fêter, ce n'est pas obligé de demander, obligé d'aller emprunter pour se donner la mort. Donc il faudrait que les gens soient conscients et responsables et qu'on n'aille pas se tuer parce qu'on a voulu fêter. On se tue pour avoir fêté. Vous voyez les drames que les gens ont subis, le chiffre que tu viens de donner. Cinq morts dans la nuit d'une seule fête, dans la nuit du 24 ou 25. 5 morts.
C'est enregistré officiellement.
C'est officiellement enregistré. Le matin, moi, j'étais devant une clinique. J'avais vu, on a amené encore une dame. Elle était même presque partie. Donc, on l'a sortie de la voiture. C'était le lendemain du 25, le matin. Et on cherchait une clinique pour l'amener là-bas. Donc, ce qui veut dire que ce qui s'est passé au CHU, ça, c'est officiellement ça. Ceux-là qu'on a amenés dans les cliniques privées, on n'en compte pas. Donc, les gens n'ont qu'à être responsables.
Oui, on est là. Fabrice, comme l'a dit Abbas Issaka, c'était des accidents évitables. Hein, ceux qui ont péri dans des bagarres, qui ont mal tourné. Ceux qui ont été victimes d'accidents parce qu'ils conduisaient en excès de vitesse ou bien en état d'ébriété, eux, ils sont morts. Et, ou bien pour ceux qui sont maintenant blessés, il faut penser aux conséquences économiques, les frais hein, de leur traitement et tout le traumatisme, toutes les peines qu'ils causent à leur entourage.
Oui, c'est bien cela. Et parfois aussi, ce n'est pas forcément lié à l'alcool, c'est ces cas d'accident, même si l'alcool peut-être bat le record, surtout dans la nuit des fêtes et la veille. Vous allez vous rendre compte que pratiquement les veilles de fête, surtout quand je prends la Saint-Sylvestre le 31 décembre, et il y a une sorte de course contre la montre qui s'impose pratiquement à tout le monde. On ne comprend pas. C'est-à-dire, vous avez beau prendre les dispositions pour être à jour, mais il y a toujours cette situation-là. Si vous vous retrouvez, par exemple, le 31 décembre à 15h vers le Grand Marché, pour rallier à Goël, vous risquez de faire 3 heures de temps. C'est-à-dire que la circulation est dense. Et quand cette circulation est dense comme cela, ça voudrait dire qu'il y a de fortes chances que les choses ne se passent pas comme cela devrait. Mm-hmm. Et puis, avec nos villes qui continuent toujours par s'agrandir, vous avez vu, on déploie les forces de l'ordre pour carrément imposer une autre façon de circuler sans forcément tenir compte des feux de signalisation. Mais malgré cela, on continue toujours par enregistrer des cas d'accident. On peut se poser la question, on va où les jours de fête? On va où quand on sait qu'on a déjà pris un verre de trop et tout cela? On va où? Et moi, je crois que la meilleure manière, on peut pas demander à tout le monde de rester chez lui, mais je crois que l'idéal, ce serait que dans ces moments-là, de faire l'effort pour rester à la maison, c'est tout. Et vous, ça vous épargne de beaucoup de choses. Vous pouvez rester à la maison, avoir un accident, oui. Mais la circulation est un peu compliquée parce que qu'est-ce qui se passe? Surtout le nouvel an, il y a des gens, généralement, c'est pas des gens qui ont les moyens, hein. C'est une fête réservée un peu à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui n'ont qu'une seule fois la chance de fêter une fois dans l'année, puisque certains avec des amis, il y en a qui fêtent presque tous les week-ends. Et ce jour-là, il y a un déchaînement.
Oui.
Il y a un déchaînement et donc on se retrouve dans une situation où des cas d'accident, les probabilités pour que les artisans se surviennent augmentent. Donc, il faudra vraiment faire vraiment l'effort de rester vraiment chez soi durant ces périodes-là, et vous allez voir que le lendemain, tout redevient normal. Et cette folie de la veille-là, il suffit de vous concentrer un peu, d'être un peu regardant, en fêtant et en ayant une certaine lucidité. Vous vous retrouvez le 2, les choses sont rentrées dans l'ordre et puis la vie continue.
Le drame surtout, Sylvestre Béni, c'est que vous avez bon nombre de ces victimes-là n'ont pas été cause elles-mêmes d'accidents. Hein.
Ouais,
certains étaient peut-être devant leur maison, ou bien ils circulaient quand même assez sagement, mais c'est les autres qui viennent maintenant leur créer des problèmes.
Oui, c'est cela. C'est pourquoi je crois qu'il faut appeler tout le monde à raison garder. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu que nous avons même eu de la peine à nous situer ici. Après Noël, ici, on se retrouvait même pas. C'est-à-dire que Noël est passé sans qu'on se retrouve pas. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un jour comme les autres, même si on parle pour les chrétiens, c'est la nativité et tout. Mais ça veut dire que on peut juste prendre des décisions assez sages, ne serait-ce qu'une journée, et éviter donc tout un drame. Voyez-vous, mais si vous prenez ce genre de fête, c'est comme si les gens oublient en fait que eux-mêmes ils existent d'abord. Et que bon, il y a plus rien devant.
Et que la vie ne s'arrête pas avec la fête là.
Voilà. Les gens ont tendance à croire que oui, le 25 c'était le summum, c'était en fait l'infini. Et puis il faut faire toutes les folies en ce jour là et pour se retrouver le lendemain. Or malheureusement, il y a certains qui trépassent même le jour J. Voyez-vous, donc il faut appeler tout le monde à raison garder. Tu l'as dit, parfois certains sont à leur portail aux devantures et c'est d'autres véhicules avec des jeunes qui reviennent. Peut-être des boîtes de nuit, hein, totalement en état d'ébriété, qui viennent rentrer même dans la clôture et tout. Certains sont même dans la maison en train de dormir, et c'est un véhicule qui vient rentrer dans leur concession et tout. Bon, il y a tous ces faits-là. Donc, avis donc à tout le monde de savoir que c'est un jour comme les autres, et puis, si on fait bien, donc on verra le prochain.
Voilà. Merci. L'incendie d'Agouessiyeye n'a pas fini de faire parler de lui, d'autant plus que ce marché a été rejoint par la boutique Elino à Cara et la presse revient là-dessus aujourd'hui. La Dépêche qui écrit que l'incendie d'Agouessiyeye rouvre les plaies des grands marchés de Lomé et de Cara, et le journal continue que les populations sont à bout de souffle. Autre journal, c'est la Manchette qui écrit de légitimes interrogations après les drames à Agouessiyeye et à Cara. Sylvestre Béni?
Oui, il y a quand même toute une panoplie d'interrogations, de questionnements. Et d'abord, nous sommes partis donc du communiqué du gouvernement qui dit les sapeurs-pompiers sont arrivés à 21h35 et ils n'ont pu maîtriser du moins le drame à 6h, à 3h, autour de 3h. Donc si on prend, ça veut dire on a pris presque 5 heures de temps pour maîtriser donc l'incendie. Or, les sapeurs-pompiers, le corps des sapeurs-pompiers en soi que nous connaissons, il n'était pas le seul, il y a eu plusieurs renforts. Il y a eu les sapeurs-pompiers de l'aéroport, les sapeurs-pompiers donc de Pia, hein, les sapeurs-pompiers de... Il y en a...
Même du port.
Même du port. Donc, si on prend toute cette équipe-là, c'est-à-dire que hein, tous ces renforts-là qui sont là et qui n'ont pas pu maîtriser hein, le feu pendant 5 heures de temps, il y a problème. Alors, l'autre chose, c'est que, et ça devient presque récurrent, nos sapeurs-pompiers viennent sur les lieux et on se rend compte que parfois, ils n'ont pas d'eau, ou ils viennent, et après quelques... Hein, après même, à peine ils ont sorti le tuyau pour lancer, et puis on se retrouve qu'il n'y a pas d'eau. Les images circulent la dernière fois où... C'est comme... Eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas l'eau. Oh, aujourd'hui, c'est inconcevable. Voyez-vous, et ça devient récurrent. Alors, l'autre chose, c'est que... ces drames-là, nous nous sommes dit, pourquoi est-ce que la plupart, c'est la nuit? Vous prenez donc le drame de 2013, c'était la nuit. À Hanoukopé, c'était la nuit. Et pourquoi à des heures déterminées entre 21h et 23h? C'est des questions que nous sommes posées. Alors, l'autre chose, c'est le fait que Kara et Lomé sont devenus presque des villes jumelles dans la douleur. C'est-à-dire que en 2013, c'était Kara et après, c'est Lomé. Maintenant, après Lomé, à Goya-Sieyé, c'est Kara. Donc, pourquoi est-ce que ces deux villes-là sont devenues des villes jumelles donc dans le drame? Voyez-vous, il y a tellement donc de questions, de questionnements, et nous nous sommes dit, bon, pourquoi c'est-à-dire que c'est vrai que nous ne voulons pas être peut-être dans la superstition et tout ça, mais nous nous sommes dit, est-ce qu'il faut lire entre les lignes ces genres donc de phénomènes qui deviennent presque récurrents. Nous prenons donc le drame donc de Kara, c'est-à-dire après Agoyasi. Ce site en soi pratiquement subi 3 incendies, puisque c'était le premier c'était en 2013. Après, nous avons eu janvier 2022. Maintenant, nous avons janvier 2023.
Non, décembre.
Non, décembre, pardon. Décembre 2023. Donc, le seul site a subi 3 incendies. Pourquoi? Vous voyez, donc, il y a tellement donc, de questionnements que nous nous sommes dit, on pouvait aller au-delà. Bon, peut-être, je vais faire les choses. Maintenant, l'autre chose, c'est que, oui. au niveau des marchés, je crois qu'il y a également un problème qui se pose dans la construction même des marchés. Puisque la dernière fois, les premiers témoins qui étaient à Goya ont dit, du fait donc de l'étroitesse même de l'ouverture, ça n'a pas permis un accès facile au lieu. Puisque si vous prenez donc le marché d'Agoyassié, vous voyez un peu le portail et tout ça, hein, les portes sont tellement étroites que ça n'a pas permis d'assez rapide au lieu. Donc pourquoi est-ce que au niveau des marchés nous ne pensons pas à cela, avoir peut-être plus d'ouverture comme ça en cas de sinistre, on peut véritablement accéder au lieu. Et quand je parle de ça, c'est vrai que je touche du bois, mais le nouveau marché donc de Clicamé me vient en tête. C'est presque un marché presque enclavé. Si aujourd'hui il y a sinistre et qu'on peut pas prendre la voie hein, qui va vers l'entrée sud du campus, si cette voie est presque et on ne peut pas utiliser la voie, là, on prend par où? Voyez-vous, donc, il y a tellement donc, de questionnements, et puis les bouches d'incendie. Ce matin, je circulais un peu au niveau donc, de Dijolé, j'ai vu qu'au niveau donc, du marché de Dijolé, j'ai vu une bouche d'incendie à l'entrée du marché. J'ai dit, tiens, alors si on peut le réussir, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire au niveau donc, de tous les marchés? Parce que si on a une bouche d'incendie, avec ces drames-là, au moins on peut déjà, à partir de là, faire donc les premiers secours en attendant que les sapeurs-pompiers n'arrivent.
C'est-à-dire que donc, les questions que tu te poses, et nombreux sont les auditeurs qui se posent la même question, les questions sont légitimes, oui. Mais sans verser dans la suspicion, oui. Fabrice, je pense que les enquêtes, si elles évoluent rapidement, et que les conclusions communiquées, on va revenir au rationnel pour identifier les causes de ces incendies qui se produisent de façon récurrente.
Oui, je suis d'accord avec mon confrère quand il s'interroge sur cette curieuse coïncidence entre Kara et de Lomé. Puisque quand on revient en 2013, effectivement, lorsque le marché de Kara a pris feu dans la nuit du 12 au 13, je crois que c'était exactement les dates.
Du 11 au 12.
11 au 12, oui, quelque chose comme cela. Je crois que personne ne suspectait un incendie d'origine criminelle. C'était inimaginable. Tout le monde dit, certains ont dit c'est un fou qui a fait quoi, qui ceci ou cela. C'est ce qui se disait. Le chef de l'État avait pris un vol spécial ce jour-là. Il est venu au marché de Cara, il s'est prêté aux questions des journalistes et il a dit ça ne se reproduira plus jamais. Et quelques jours plus tard, on se retrouve à Lomé et voilà, c'est à partir de Lomé maintenant, on s'est dit, ah, c'est un peu comme les deux tours jumelles. La première, on se disait, bon, peut-être que ça peut être un accident. Mais lorsque le second appareil est venu percuter, on dit non, cette coïncidence-là ne peut pas être aussi facile. C'est là où, maintenant, tout de suite, on a compris qu'il y a quelque chose qui se passait en cette année-là. Et la dernière fois, lorsque on a parlé de l'incendie au niveau du marché d'acier, lorsque j'ai appris ça et j'ai vu les périodes, je me suis amusé à dire à quelqu'un, ah, il faut qu'on sécurise les marchés de Cara. C'était juste pour blaguer. C'était juste pour blaguer en m'inspirant un peu de ce qui s'était passé l'an dernier. J'ai dit peut-être que cette année, ça a commencé par Lomé. Bon. Et puis curieusement, eh bien, on vient nous dire qu'il y a une partie de l'ancien marché aussi, une boutique qui a pris feu et tout cela. Effectivement, c'est des coïncidences quand même qui sont un peu curieuses. Mais celui de 2013, tout le monde sait que finalement, c'est la piste d'un crime qui a été évoqué. L'affaire est allée loin, on a pris des gens qu'on a relâchés, la justice avait avancé, mais on n'a jamais eu de procès.
Oui.
On n'a jamais eu de procès. Est-ce qu'on a tiré les leçons de ce qui était arrivé à ces deux marchés-là en 2013? Je crois qu'aujourd'hui, s'il faut faire un débat sur cette question-là, on n'en finira pas parce que pour moi, on n'a pas assez tiré de leçons.
Et les corps, hein, les marchés de Cara et de Lomé ont été démolis. Hein, et les enquêtes, on avait dit que les enquêtes avaient beaucoup évolué, mais les conclusions sont où? Le procès, ce sera quand? Or, il faut vraiment ce procès-là pour qu'on voit ce qu'il en est. Parce qu'il y a des gens encore qui portent les accusations au cou aujourd'hui.
Oui.
Hein, ils traînent ça, mais est-ce qu'ils seront blanchis ou bien est-ce qu'ils seront convaincus d'avoir commis ce crime-là, et puis d'autres incendies qui viennent s'y greffer vivement pour éviter que nous versions dans la superstition comme Sylvestre Béni, vivement que les enquêtes évoluent et que le procès se tienne pour que nous revenions à la raison rationnelle. Mais nous allons dépasser ça maintenant. L'incendie a eu lieu à Gouessiéyé, un grand pôle commercial de la capitale, pour ne pas du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans ce sens que le PPI, c'est un des partis politiques, hein, appelle à un fonds spécial aux victimes. Le messager nous rappelle que quelques instants après l'incendie, le président de la République s'est montré solidaire avec les commerçants de ce marché. Dounia, Le Monde également, qui, à la page 4, écrit... Dounia, donc à la page 4, qui écrit lui aussi que le chef de l'État et le gouvernement se montrent solidaires avec les victimes de ce marché. Et puis, le libéral, hein, également, qui nous donne une information, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Togo qui appelle à une solidarité avec les commerçants de ce marché. Et Abbas, voilà cette chaîne de solidarité, hein, qui se développe. Le gouvernement a envoyé une mission de ministre sur le site. Après, le chef de l'État a reçu une délégation des commerçants à la présidence. Le gouvernement a permis aux victimes de faire un peu la fête dans leur domicile. Maintenant, appel est fait aux banques, aux institutions de microfinance et même aux importateurs, aux grossistes d'entrevoir, d'envisager des mesures pour permettre aux commerçants de relancer leurs affaires.
Ouais, il faut vraiment une résilience du côté de ces commerçants. Parce que quand vous les voyez, c'est toute une vie, toute leur vie qu'ils ont préparée, qui est partie en fumée. Et même tout ce qu'on va pouvoir leur faire, ce ne serait pas satisfaisant. Ça ne va pas, parce que la personne a passé tout son temps là. C'est-à-dire que c'est avec ça que je vis. Et voilà qu'un jour, en moins d'une seconde, tout part en fumée. Là, il faudrait qu'il y ait des psychologues qui vont travailler avec eux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le jour-là, il y a eu des décès par crise cardiaque.
Ah bon?
Oui. Il y a eu des décès
par crise cardiaque. Je craignais ça, mais je ne sais pas. Je ne savais pas qu'officiellement, il y a eu des
décès. Il y a eu des décès parce que les femmes sont tombées comme ça, et puis c'est fini. Il y a certains qui ont été transportés. Le jour-là, si vous voyez les ambulances, et sapeurs-pompiers, autres, aller faire des allers-retours, vous allez comprendre que ce n'était pas facile. Les chefs de l'État les a reçus. Elles ont exprimé ce qu'elles ont à faire. Donc, il y a un état des lieux qui a été fait. Le chef de l'État a pris sur lui de faire ce qu'il peut faire pour permettre à ces femmes d'oublier un temps soit peu ce qui s'est passé en leur permettant de fêter Noël avec leurs enfants. C'est un geste de solidarité qu'il faut saluer. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont pu faire à la rencontre de ces femmes pour les soulager, pour, au moins pour leur amener, pour leur dire, donner leur compassion. Aujourd'hui, ce que moi je peux dire, par exemple, Pépé demande une action de solidarité. Est-ce que dans ces conditions, on ne peut pas faire un téléthon pour faire un appel de fonds pour que au moins cette femme aussi puisse avoir quelque chose? Parce que dans certaines circonstances, si le Togo se qualifie d'habitude pour les cannes, on organise, on mobilise des fonds. Pourquoi dans ce drame-là,
on augmente le prix des bières.
On augmente le prix des bières. Pourquoi dans ce drame, aujourd'hui, on ne peut pas faire un appel à mobilisation de fonds, un téléthon? Nous avons vu, lors de la Covid, il y a un appel de fonds qui a été fait pour venir à bout de cette Covid. Mais aujourd'hui, avec cette situation qui se présente, on fait appel à solidarité à tout le monde. On fait un téléthon où qui est bien organisé avec des responsabilités qu'on donne à des personnalités pour que les femmes là puissent se relancer dans les affaires. Aujourd'hui, quand vous allez au marché, elles sont obligées. Je crois que c'est hier ou aujourd'hui qu'on a enlevé les barrières. Elles sont obligées de rester sur le terre-plein pour vendre leur marchandise.
J'avoue que je suis passé là-bas hier. J'ai eu un choc, une émotion. Quand j'ai vu les commerçants occuper les terres pleines et se répandre le long des rues, ça m'a fait vraiment, vraiment mal. C'est la preuve mais qu'elles tiennent à leurs affaires. Et justement, c'est dans ce sens-là que les instructions du gouvernement vont. Quand Dounia nous rappelle que le chef de l'État a instruit le gouvernement et les institutions de microfinance à trouver des solutions idoines. Également, comme les importateurs et les grossistes également envisagent quelque chose, comme la chambre de commerce. Fabrice, peut-être pour ne pas faire de la charité, mais toutes ces actions devront maintenant permettre à ce que les femmes puissent disposer de moyens pour relancer leur activité, d'autant plus que le gouvernement envisage de délocaliser provisoirement le marché sur un site non loin de l'ancien.
Oui, je crois que le gouvernement quand même a eu une réaction prompte. D'abord le chef de l'État qui reçoit les femmes et puis les ministres qui sont intéressés par la question également qui ont réagi et les hommes politiques qui sont descendus sur le terrain et d'autres institutions comme la Chambre de commerce également dans le sillage des actions du gouvernement en faveur des sinistrés également qui appellent à une certaine générosité des opérateurs économiques, importateurs et exportateurs, grossistes, semi-grossistes et tout cela. Et donc, c'est des initiatives allant dans le sens de revoir la facilité du paiement des crédits qui ont été contactés par toutes ces femmes-là. Oh, mais non, j'avoue que c'est vrai que des initiatives sont ici, ça va pas être vraiment facile parce que je ne sais pas comment ça se passe dans ce genre de situation, comment on peut évaluer le sinistre au niveau le dommage subi par chacun des sinistrés. Comment ça se fait? Est-ce que il me revient de dire j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela et tout cela et autres? On verra qu'à un moment donné, peut-être à part cette traçabilité là qu'on peut avoir au niveau des banques où les gens ont contracté des prêts ou alors les gens peut-être ont des reçus d'importation des produits de l'extérieur et autres venant d'autres. Mais j'avoue qu'il y aura certains peut-être qui ne pourront pas prouver certaines choses ou certains peut-être, je ne suppose pas, l'homme étant ce qu'il est aussi, qui peut peut-être exagérer aussi. Et donc, du coup, ça risque de revenir à une situation où ça va être plus ou moins un dédommagement qui peut-être forcément ne comblera pas toutes les attentes. Mais je crois que l'essentiel dans ça, c'est de permettre à ces femmes-là de relancer leur activité. Parce qu'effectivement, quand vous prenez ces hommes et femmes qui travaillent au niveau de ces marchés, c'est des familles qui sont nourries, c'est d'autres activités. Il y en a qui sont grossistes et qui livrent des marchandises et tout cela. Et le danger avec ça, c'est que si on ne sait pas faire, c'est la flambée également des prix au niveau des produits de première nécessité, parce que le marché d'acier, sa spécialité, c'est la céréale aussi. Les marchés ont leur spécialité au niveau de la capitale Lomé. On sait que si le marché de bois s'y met à un souci aujourd'hui, au niveau du bétail, on aura beaucoup à perdre. Et au niveau d'agro-acier, les céréales, et là, je crois que on risque de payer un peu un lourd tribut pour tout le monde. C'est pour cela, c'est une situation qui va toucher pratiquement tous les Togolais.
Oui.
Tous les Togolais. Surtout, et ceux qui vont payer le lourd tribut, c'est le consommateur. Puisque forcément, il y aura quand même quelque chose qui sera cassé dans cette chaîne-là qui existait au niveau de ce marché. Et donc, c'est pour cela qu'il est important quand même que, tel que le gouvernement le fait et les autres institutions suivent, de voir comment rapidement il faut venir au secours de ces dames-là pour qu'on ne sente pas sur le terrain le préjudice qui a été causé.
Alors, dans ce sens, j'ai écouté ce matin sur Radio Lomé que le ministère du Commerce a abrité une réunion hier qui a rassemblé une délégation des commerçants d'Akouya-Siéyé avec les importateurs et les grossistes. Et j'ai écouté ces certains grossistes et importateurs qui s'offrent pour offrir des lots de marchandises à un prix
sensiblement bas,
facile à la disposition des commerçants. Il y a également l'ANSAT qui se dit disposé à offrir quelques milliers de tonnes de céréales à des prix revus aux commerçants. Donc tout ça participe à la relance des activités, en attendant qu'on voit et s'il y a besoin de ce fonds spécial que souhaite le parti PPI.
Oui, lorsqu'on parle d'un élan de solidarité, je crois que progressivement nous sommes en train donc de créer cet élan-là. Parce que si je vois de part et d'autre, tout le monde s'active pour voir donc en ce qui concerne donc son département ou du moins son milieu commercial, ce qu'il faut faire pour aider donc ces dames-là. Et c'est en cela que je dis que nous l'avons souvent dit, quand il y a ces champs donc de situations déplorables au pays, il faudrait que le premier responsable, c'est-à-dire le premier des Togolais, le chef de l'État, puisse lui-même agir, et vous verrez que tout va suivre. Vous avez vu que pour une fois où rapidement il a reçu presque dans la avec diligence cette dame là, vous avez vu que maintenant tout suit donc aujourd'hui. Donc demandons surtout donc à l'État d'être plus une caution morale et financière également pour cette dame là, parce que les sociétés donc de microfinance, ce n'est pas eux, c'est de l'argent qu'ils sont allés cueillir quelque part et qu'ils ont gardé pour donner à cette dame là, puisque j'ai écouté le président de la PSFD Ange Ketok, qui disait que ça doit être traité au cas par cas en ce qui concerne donc cette dame là. Voyez-vous donc que ce ne serait pas de l'aumône aux pauvres, bon, excusez-moi le terme, de la charité, mais on étudiera le truc au cas par cas. Oui. Maintenant, il faudrait quand même que, dans ces cas par cas-là, que l'État soit toujours derrière pour voir si, effectivement, cette dame-là ne peut pas valablement, du fait donc des pièces comptables qu'elle a, si l'État ne peut pas peut-être jouer un peu, pour qu'on puisse permettre à cette dame-là de retrouver, de redémarrer donc son activité. Donc, demandons, gardons quand même cet élan de solidarité-là pour que les dames puissent véritablement recommencer. Et surtout, que le nouveau site-là, que ce ne soit pas encore des effets d'annonce. Il faudrait qu'on tourne rapidement, puisque aujourd'hui, on parle donc de trois sites, deux choisis par les dames aussi, et puis un choisi par, je crois, par l'État ou
la
commission.
La commune.
Donc, il faudrait véritablement qu'on puisse au moins que ces dames ne puissent retrouver le site, le nouveau site rapidement. Et là, si elles sont là, elles commencent à vendre, même si celle qui a perdu l'épargne, qui vend aujourd'hui de la tomate, si elles commencent à faire quand même une certaine activité, moralement aussi, elle est guérie. C'est-à-dire psychologiquement, psychiquement, elle est guérie. Et donc, ça peut véritablement écouler. Quoi.
Il paraît qu'il y a un site qui est déjà déterminé au niveau de l'ancien place de Soko BTP. Là.
Oh, oui.
Et en plus, il y a au niveau de l'Eguasito, le marché de l'Eguasito qui sera aménagé. Dans ce sens, le chef de l'État a donné, je crois, 40 000
feuilles de tôle
pour la construction de.
Oui, il faut faire vite quand même.
Mais comme on le dit, hein, même pour le provisoire, il faut qu'on ait à l'esprit hein, de mettre les mesures de sécurité.
Hein,
faut pas que les mêmes problèmes dont nous plaignons ici se reproduisent là. Mais souffrez qu'on sorte de cette grisaille pour parler de deux sujets hein, que vous hein, sur lesquels vous revenez dans vos journaux. Sylvestre Béni, la manchette nous parle de la Fédération Togolaise de Football. Élection à la Fédération Togolaise de Football, une nouvelle crise couve. C'est l'article, c'est le titre de ton article.
Oui, oui, parce que lorsque on fuit un peu, on voit hein, ce qui se passe également au niveau donc de la Fédération Togolaise de Football. Je crois que c'est à ce titre-là que nous sommes arrivés, parce que aujourd'hui, jusqu'à après hein, le Van Gaal et tout ce qui s'est passé au mondial et tout ça, on a vu qu'avec l'arrivée donc du colonel Akpovi, c'est lui le président qui a connu un plus d'accalmie. Il n'y a pas de crise et tout ça, sauf que c'est au niveau donc du football même que ça ne marchait pas avec l'avènement de Claude Leroy et tout. Maintenant tout semble rouler hein, passer sur des roulettes que hein, avec la prochaine élection au niveau de la présidence, je crois qu'il y a encore quelques soucis, il faut le dire ainsi, puisque le président sortant, c'est-à-dire le d'après nos informations, le colonel Akpovi, hein, veut quand même être donc ça, bon, il veut encore compétir,
il veut empiler
donc un autre mandat, et selon nos informations, il a même déposé hein, sa candidature. Hein, le 19 décembre hein, la candidature donc de Nouvel Élan, et patatras, le 20 il envoie donc une lettre à la commission pour notifier à la commission qui retire donc sa candidature. Alors lorsque nous sommes allés dans ces informations, nous avons vu que derrière il y a une certaine pression, une pression qui d'une sphère non sportive, si vous voulez que je puisse caricaturer les choses.
Une ingérence extérieure.
Une ingérence au monde du football qui faisait pression à ce qu'il ne puisse plus remplir, il ne puisse plus faire encore acte de candidature. Mais il a fait la veille, le lendemain, patatras, il est obligé. Et lorsque vous lisez, aujourd'hui, là, je crois que la lettre circule sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il le dit même que c'est avec regret que, quand il annonçait donc le retrait donc de sa liste. Et d'après aussi nos informations, cette ingérence-là, c'est-à-dire que cette sphère non sportive voulait imposer un candidat, et que ce soit donc le candidat de cette sphère non sportive. Mais il y a beaucoup qui murmurent déjà, qui ne veulent pas qu'on soit encore dans une certaine ingérence au niveau du football, parce que généralement, quand ça se passe comme ça, plus tard, c'est la crise. On se rappelle encore de Tata Blessi de Mars et puis Gabriel Okuma Ameyi qui ont même refusé de se saluer même le jour même de leur élection, c'est-à-dire le président et le vice-président ont refusé de se saluer, et après c'est le football qui est en partie. Maintenant, aux dernières nouvelles, hein, je crois que si vous prenez le journal, vous aurez quand même toutes les informations, oui. Mais aux dernières nouvelles, nous avons appris que la même liste du colonel Akpovi qui a envoyé un courrier à la commission pour annoncer son retrait, la même liste revient à la surface et dit, maintenant nous allons encore compétir.
Oui.
Voyez-vous, est-ce que eux aussi le font dans un élan de défi vis-à-vis donc de cette ingérence? Vous voyez, donc on met tout ça de bout en bout.
En somme, il y a depuis quelques heures, nous apprenons de diverses sources que le colonel Akpovi revient dans la course avec sa liste Nouvel Élan.
Ouais.
Eh bien, le congrès lui-même, l'élection est elle-même prévue début février.
Le 4, je crois.
Ok, 4. Nous verrons ce qu'il en sera d'ici là. Et il nous reste 4
minutes. Oui, il y a plus pour ajouter, oui. Parce que par rapport à ce qu'il a expliqué, il y a plus grave, parce que ce qui se passe au niveau de la commission électorale,
oui.
C'est ça qu'il faut chercher à dénoncer.
Et c'est pas
selon les tests. On dit que si la tête d'une liste se retire,
c'est que la liste tombe
complètement. Oui. Maintenant, au niveau de la commission électorale demande, veut imposer que le vice-président, c'est-à-dire c'est Amand Marcelin,
qui est sur la liste de Apovi.
Faut pas donner de nom.
Non, comment ne pas donner? C'est la liste d'Apovi.
Ok.
Hein? Donc le monsieur puisse reprendre la liste. Or, il pouvait se contenter d'aller organiser ça.
Maintenant que Apovi revient, il revient comme tête de liste.
Il n'est pas encore revenu.
Si.
Il est en train de revenir.
Voilà. Oui, non, ce que moi je voulais dire, je crois que le confrère le disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous prenez la vie de la Fédération Togolaise de football ces dernières années, effectivement, c'est le colonel Apovi qui a eu la chance de vivre une période de ni peine ni guerre, où c'était tranquille. Mais contraste, on n'a pas de résultat.
Voilà.
C'est-à-dire, footballistiquement parlant. Parce que, au moment où il y avait des crises, le Togo était un pays bizarre. vous avez vu tout le bruit que on a eu au niveau de Wangen. Et puis, le premier match, nous sommes les premiers à ouvrir le score.
Oui.
Et après, on s'est rendu compte qu'il aurait fallu un peu d'organisation et de concentration pour ce mondial-là.
Pour que la France ne passe pas pour le
mondial. Et donc, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que, il n'y a pas eu de crise, mais footballistiquement parlant, on n'a pas non plus eu des résultats. Ouais. Est-ce que c'est en période de crise, ça marche pour nous? C'est quand même bizarre.
Non, tu sais, Fabrice, il y a de ces animaux-là qui prospèrent plutôt dans les autres troubles.
Oui. Ouais.
Alors, terminons avec un point qui a été débattu au Conseil des ministres il y a quelques jours. Il s'agit de ce projet de, je crois, loi organique ou bien décret qui veut donner un nouveau visage à notre fonction publique. Alors, je lis dans la colonne de l'île libérale les grands changements qui pourraient intervenir dans la fonction publique. Par indiscrétion, Fabrice?
Oui, mais je crois que le ministre de la fonction publique a longuement communiqué là-dessus. La fonction publique togolaise veut revoir son statut et plusieurs aspects sont pris en compte. Entre autres, je cite pêle-mêle certains, par exemple le statut de la femme fonctionnaire, également les questions de la lourdeur administrative qui seront également revues parce qu'on sait que l'administration togolaise est très lente surtout et cette lenteur-là a un lien également avec la corruption et les nouveaux tests également veulent plancher là-dessus. Et puis, ce qui est intéressant aussi, on sent que dorénavant, même si ça existait, il y a une idée d'évaluer également ce qu'on appelle fonctionnaire togolais.
Mm-hmm.
Et cette envie également de garder les talents au niveau de l'administration publique, parce qu'effectivement, on a constaté que beaucoup partent pour des... Et j'espère qu'à ce niveau-là, on a compris que c'est pas forcément le cadre qui n'est pas intéressant pour ceux qui partent très souvent, mais c'est la question salariale. C'est-à-dire, lorsque vous avez des propositions venant de l'extérieur ou d'autres structures qui sont plus intéressantes, nous avons des cerveaux comme ça qui quittent la fonction publique pour aller monnayer leur talent ailleurs. Et quand ce nouveau statut qui est en vue prend en compte ces éléments-là, je crois que si ce qui est pris sur le papier se traduit dans la réalité, on pourra également espérer qu'il y ait vraiment de nouveaux réflexes au niveau de notre fonction publique.
Merci. Vous lirez l'article dans Le Libéral et vous en saurez davantage sur quelques-uns des grands traits que va porter la fonction publique dans l'avenir. Il est midi, nous allons à la pause, mais nous revenons dans quelques minutes avec vous au bout des fils. 93.5. La parole est à présent à vous. Vous composez le 22-21-33-74 ou le 91-36-63-75. On m'annonce un premier auditeur.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Patrice.
Patrice?
Oui, c'est Pasito.
Ok, nous vous écoutons.
Moi, je viens par rapport à le problème des marchés au Togo.
Oui.
C'est que, bon, je ne sais pas, comment on peut construire un marché au moment où il n'y a pas une route qui peut rentrer dans le marché. L'autre fois, s'il y avait une route au beau milieu du marché, au moins les sapeurs-pompiers devront faire quelque chose.
Oui.
Vous avez vu que le feu a pris vers la route en allant vers le marché.
Mm-hmm.
Si bien que, ils peuvent avoir la longueur de tuyau n'importe comment, ils ne feront pas. S'il y avait une route dans le marché, ils sont rentrés dans le marché, ils vont faire face maintenant le feu et ils devront, le jour-là, ils devront faire quelque chose.
Voilà.
Donc c'est pour au moins dire à nos autorités, s'ils veulent construire un marché là, au moins ils n'ont pas prévu au moins une ou deux rues dans le marché.
Ça va les beaucoup de mesures de sécurité pour de tels cas. Merci beaucoup, Patrice. On sent que vous connaissez quelque chose dans ces affaires délicates. Deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Salut, ma voix.
Oui, nous écoutons.
Merveilleux plateau.
Merci.
Excusez-moi, bon, je dirais que c'est un revenant qui vous parle. C'est-à-dire qu'on doit être en vie pour bien fêter, comme vous l'avez dit. Je vous parle de moi-même parce que la dernière fois, je revenais de Ségué autour de 21h. En quittant la nouvelle station de catholique là, qui est proche de catholique là, vers la douane. Mais je pensais que la route était vide, j'ai lancé la moto. Bon, je n'ai pas l'habitude de lancer le phare en ville. Donc je voyais comme quelqu'un veut traverser la route, en même temps la personne s'est mise à crier. Du coup, j'ai vu une montagne noire devant moi.
Ah bon?
Un gros camion qui est là-bas.
Ah bon?
N'eût été mon agilité, tout ça là. Je devais rentrer sous le camion, on va dire que bon, voilà, il a pris de l'alcool. Ça.
Et le camion était immobilisé sans signalisation aucune.
Sans signalisation. L'huile descendait pour faire le triangle, ça. Ils n'ont pas de triangle. Donc, c'est son habit blanc, là, qui m'a signalé. Et juste, je m'arrêtais sous le camion comme ça. Vous voyez?
Dieu n'a pas voulu.
Il n'y a même pas de faux, comment on peut appeler ça? Faux clientin. Ou bien, c'est-à-dire, il y a des trucs là que les camions mettent sur, derrière là.
Oui.
Même si ils n'ont pas de triangle, que tu puisses, les reflets de phare puissent voir ça. J'attire l'attention des policiers qui nous fassent un effort pour que les camions là puissent mettre.
Contrôler l'état des véhicules qui sont en circulation dans notre pays.
Voilà. Qu'ils essaient de mettre quelque chose derrière, au moins s'ils n'ont pas de phare ou bien de feu arrière, qu'on puisse les voir de loin. Sinon, les gens, je ne sais pas, les gens qu'on a comptés, s'ils sont rentrés sous ce camion, je ne sais pas.
Merci
donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous.
Et puis, sinon, l'une des solutions alternatives, qu'on éclaire au moins les lampadaires qu'on a mis quand même sur la route, là.
Oui, en effet, en effet.
Merci beaucoup, M. Nyamavo. Dieu vous aime.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi, nous écoutons.
Oui. C'est pour, ça vient pour les marchés.
Oui.
Oui. Vous nous parliez tout à l'heure de solidarité nationale. Moi, je ne me retrouve pas dans ça. Pourquoi? Parce que nos mamans ou nos papas, nos pères, qui vendent dans les marchés, ils paient des impôts, ils paient le ticket, et l'ouverture du marché est réglementée. Ça veut dire que il y a une heure d'ouverture, une heure pour la fermeture. Et on chasse tout le monde. À partir du moment où c'est réglé comme ça et des gens payent, c'est que le marché doit être assuré d'abord. Et la responsabilité revient à ceux qui ont l'obligation de veiller au bon fonctionnement de ces marchés. S'il y a un pépin, ça les regarde. C'est eux qui doivent dédommager les gens dans les marchés. Dire qu'il faut l'élan national ou je sais pas, ça se perpétue. Vous avez vu le nombre de marchés brûlés. Jusqu'à quand ça va s'arrêter? On ne va pas détourner le sujet. On doit chercher les responsabilités. C'est comme ça.
Merci.
Mais pour le moment, ça revient à la société qui gère le marché. C'est à cette société de s'occuper des commerçants.
Oui.
Voilà, merci.
Je vous en prie, hein, c'est un bon éclairage. Est-ce que les PAM ou la commune qui gère ce marché-là, est-ce qu'il y a une assurance pour le marché globalement? Est-ce que les commerçants, commerçantes, ont également assuré leur magasin, leur boutique? C'est une question qu'on a posée hier. Et merci à l'auditeur qui revient là-dessus aujourd'hui. Le quatrième auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Commis.
Commis, nous écoutons.
Merci beaucoup à M. Kofi. Je prends notre pan de la situation. Beaucoup de courage à toutes ces familles qui sont dans des difficultés en cette fin d'année. Même les banques et les microfinances qui sont concernées. Beaucoup de courage à vous. Monsieur Sass.
Oui.
Vous vous rappelez de 2013 et des révélations de Kouloum.
De
Kouloum.
Non, pas Kouloum. Mohamed Loum.
Voilà, plutôt Loum.
Oui.
Voilà. Il nous avait déjà averti. Et j'aimerais interpeller monsieur Madjoulba, le ministre Madjoulba.
De la sécurité.
Bien sûr.
Colonel de son état.
On ne va pas continuer à se leurrer, à tourner autour du pot. Moi, je suis un enfant de marché. Et quand vous êtes au marché, quelque chose prend feu. Le feu ne s'active pas comme si c'était des bois ramassés qu'on a entassés, qui doit brûler avec la même intensité, la vive intensité. Tantôt, il y a ceux qui vendent gingembre quelque part, oignons, les lunettes, les chaussures, tout est mélangé. Et l'intensité ne doit pas être la même. Ça voudra dire, quand il y a feu au marché, on doit pouvoir sauver quelque chose. Mais la manière dont le feu y a eu, ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui a mis le feu. Et je m'en veux pour preuve. Les résultats des deux marchés brûlés 2013, on n'en a pas connaissance des auteurs. Je veux pour preuve le siège du Parti Uni. On a brûlé ça. En 2017-2018, on a brûlé le siège de PNP. Vous vous rappelez? Ça vous a dit qu'il y a une société qui brûle. C'est de ça que l'autorité doit pouvoir démontrer aux citoyens qui va toucher le cœur des autres citoyens à vouloir aider. Faut pas venir nous dire que c'est une catastrophe naturelle ou comme quoi l'État est en train de donner 25 000 plus un bol de riz. Et puis ça, nous qui avons nos mamans là et l'étalage dépasse l'ordre de 2 millions. Vous comprenez avec nous que nous remettre 25 000 ne veut rien dire.
Oui. Et trouver l'autre. Encore une fois, que les enquêtes évoluent rapidement.
Donc,
et qu'on communique les conclusions.
Alors, oui. Je finis en disant que sortons des mensonges pour dire et nous démontrer qui a brûlé pour avoir la garantie de non-répétition.
Merci beaucoup. C'est ce que nous disons depuis, hein, que les enquêtes évoluent rapidement et qu'on nous communique les résultats. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Pamela Johannes.
Oui, nous écoutons.
Je vais toujours dans le même sens que mes deux prédécesseurs. C'est marché. Juste pour dire que c'est pas le fait de dire qu'il faut que les enquêtes soient faites parce que dans tout incident comme ça, il faut des enquêtes. Voilà. Il faut forcément des enquêtes. Maintenant, concernant le marché plus précisément, les éléments qui ont entouré l'incendie le jour-là, les événements qui ont précédé tout ça là, et il y a eu des... Pourquoi personne ne veut évoquer ces éléments-là? On se concentre juste l'incendie, le geste de générosité du chef de l'État, tout ça là. Il y a, c'est-à-dire, une femme qui a été... été pointé du doigt dans cette affaire qui a fait passer les femmes sur la voie publique là demain. Il y a une affaire qui a traîné jusqu'à l'incendie. Il y a des faisceaux d'indices autour de ça que j'ai l'impression que vous mettez sous silence volontairement.
Johannes, c'est pas nous au club de la presse qui menons l'enquête, c'est le gouvernement qui a lancé l'enquête et nous souhaitons vivement que l'enquête évolue et qu'on nous communique les résultats. Si vous avez des indices, versez ça au dossier des enquêteurs, Johannes.
Tu sais pourquoi je dis ça? Sur cet élément-là, sur cet incendie-là, quand on suit le club de la presse et quelques heures après, on suit l'émission de Dadé de Miwanine, je te jure que c'est le jour et la nuit. Il y a plein d'informations qui nous sont révélées dans cette émission. Donc, on se demande, mais pourquoi dans le club de la presse, vous n'en parlez pas? Pourtant, c'est sur la même chaîne.
Johannes, voilà. Le club de la presse a son format
et nous avons les invités que nous recevons. Nous sommes clairs. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Georges depuis Segbe.
Georges depuis Segbe, nous vous écoutons.
Ouais, s'il vous plaît, moi je voudrais vous supplier, ce qui est déjà arrivé est arrivé.
Oui.
Mais à ce moment où nous sommes en train de parler là, quelle disposition prend pour que ça n'arrive plus? On ne le souhaite pas, mais cette nuit, ou bien aujourd'hui, quelque chose peut encore arriver. Dagoumi, Dagoumi Nicho, Nubake, Dagoumi Pedi, Nkamile Wo, Dagoumi Ko, Afokli Tetemoga Kachinyancho, Nkamile Wo, Esi Kola Tesondwa Sioba Hadame Hadame, Ame Kokuna Opo Opo Tablo Ola Yua, Nwana Fide Bali, Wobe Kamemile, Nende Joko, No Utiala, Mide Kukum, Emega Joko, Eye Nife Vito, Amega Joko, Eke Joae Jovo, No Noji Solution.
Vous voulez revenir en français pour...
Excusez-moi, excusez-moi, ça c'est compliqué quoi, ça fait mal.
Ok.
Excusez-moi. Et deuxième chose, la route Segbe, pardon, ils n'ont qu'à allumer là, ils n'ont qu'à mettre, comment on appelle, les feux rouges, ils n'ont qu'à allumer. C'est là depuis 2 ans. Mais ça ne marche pas. Après, les gens vont mourir cadeau. Ils n'ont qu'à allumer. Oh, chaque jour, quand vous faites le club de la presse, il faut dire ça tous les jours, jusqu'à ce que ça ne rentre dans l'oreille de qui soit déjà rentré, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, l'ami Georges. Le suivant, bonjour. Allô? Le dernier auditeur aujourd'hui, oui.
Allô, Sass, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Monsieur Senghor.
Salut, Monsieur Senghor. Mm-hmm. Vous savez, avec ce problème d'incendie-là, c'est Dieu seul qui sait. Je me rappelle, il y a un prophète, Esaïe, qui avait parlé, ça fait 4 ou 5 ans de cela. Le prophète Esaïe avait prophétisé ça. Non, Sass. Je sais, vous êtes au courant ou pas?
Vous savez, les prophètes d'hier ou d'aujourd'hui, il y en a un certain nombre.
Le prophète Esaïe qui a fait la prison.
Oui, l'ami Senghor, je dis les prophètes, aussi bien ceux d'hier, d'aujourd'hui, de demain, il y a un certain nombre. Je peux ne pas être au fait des prédictions de chacun.
C'est tout à fait, vous avez raison. Mm-hmm. Donc, c'est dire que... Et puis, vous savez, c'est Dieu qui est au courant de tout. Ça soit un homme, ça soit une équipe, des gens... C'est Dieu, moi je le dis tous les temps, que tout ce qui se passe au Togo... Mais écoutez, moi je me pose des fois la question, la gestion de Papa Eyadema et la gestion de Fort Yassine. Parce que tous ces trucs-là, on ouvre des enquêtes, ça ne donne rien. Et tous les temps, des atrocités, des choses qui se passent. Mais on se pose, et nous sommes devenus une risée pour les autres pays de la sous-région. Mais je me pose la question, s'il n'y a pas des juges, il n'y a pas des enquêteurs au Togo, vous voyez. Ça, disons la vérité. Aujourd'hui, au Togo, c'est les femmes qui supportent les hommes. Vous-même, ça. Des fois, il arrive des fois que vous partez, mais arrivez, la maman peut faire quelque chose. Mais voilà aussi que ces femmes-là, aujourd'hui, sont restées au taxi. Est-ce que c'est normal? Donc, moi, je reviens sur l'action sociale dont le frère a dit. Il faut que le président, je me rappelle, lors des éperviers, on nous avait prélevé 5 francs sur le salaire. Et même, commençant par le chef de l'État, il faut qu'on allait 5 fois aussi sur son salaire pour aider nos mamans.
Merci beaucoup, l'ami Senghor. Le temps de recevoir le tout dernier auditeur. Ah, il est parti et pourtant il insistait. Je voudrais juste... Oui, il est de retour? Oui, bonjour.
Bonjour, c'est
oui.
Armand.
Armand, oui.
Oui, je tenais vraiment... à signaler ma compassion et ma solidarité à nos mamans et sœurs et papas qui ont été victimes de cet incident malheureux.
Oui.
Et je tenais surtout à saluer la promptitude du chef de l'État avec tout son gouvernement. Et surtout, ce qui m'a vraiment réjoui, c'est que nous savons tous que cette histoire de prêt, de remboursement de prêt, c'est tout un problème. C'est ça même qui fait mourir les gens des crises et autres. Vraiment, si le gouvernement a pris sur lui d'aider nos maires à pouvoir avoir un moratoire et après leur faire un refinancement, vraiment, c'est vraiment apprécié.
Merci beaucoup.
Maintenant, le reste, bon, avant de dire, il faut arrêter avec les politiques. Mais il est important aussi qu'on sache vraiment pourquoi c'est vers la fin d'année que nos marchés brûlent. Ça, oui. Vraiment, c'est une question que tout le monde se pose. Merci.
Merci. Merci beaucoup, chers amis qui ont pu entrer en ligne. Patrice Nyamavo, Kofi, Komi, Johannes, Georges. Et le tout dernier, Armand, merci pour vos différentes contributions. Eh bien, Sylvestre, Fabrice et Abbas, une minute à chacun pour la conclusion de cette émission. Sylvestre?
Non, c'est vrai que le moment ne s'y prête pas vraiment, mais je crois qu'il y a une formule donc, d'un auditeur qui m'a fait, qui m'a arraché donc, le sourire, qui disait qu'il y a une société qui brûle. Je crois que, oui, c'est vrai que, mais dans son développement, il faudrait quand même qu'on puisse également, hein, il faudrait qu'on regarde bien ce qu'elle dit. Parce que lorsqu'on prend la chronologie des faits, un certain nombre donc, de faits, je crois qu'on peut aussi arriver à cela. Au-delà, on peut aussi parler donc de Goethe Institut, qui a été aussi brûlé entre-temps. Donc, qui sont ces personnes-là qui, eux, leur rôle est toujours d'aller brûler des choses, mais c'est dans leur âme et conscience. Il ne peut pas quand même se regarder, se mirer et cesser si réellement il y a cette société-là qui brûle souvent au Togo. Donc, bon, courage et compassion aussi aux bonnes dames. C'est vrai que la période est très difficile. Donc, au courage et puis on va se relever. Donc, voilà ce que nous pouvons dire.
Merci.
Encore que nous sommes, c'est le dernier mercredi du mois, donc nous profitons de l'occasion. Vous souhaitez donc une bonne et heureuse année 2024 à tous les auditeurs et auditrices. C'est vrai que 2023 n'a pas été ce que nous souhaiterons qu'elle soit, mais bon, on garde le moral.
Dieu t'écoute et qu'il en soit ainsi.
Voilà,
Fabrice?
Oui, je voudrais juste peut-être pour le fait, en étant un homme de médias, peut-être dire quelque chose. En réalité, quand nous venons en émission ici au Club de la Presse à Canal FM, ça, si tu es l'animateur, si je dis des bêtises, en réalité, c'est toi qui encaisse d'abord. C'est toi la HAC va appeler. C'est toi qui paye le lourd tribut parce que c'est toi qui m'a ouvert le micro. Et donc, ceci dit, quand je dis des choses qui n'entrent pas en ligne de compte, professionnellement parlant, ou qui manquent de preuves, tu es en droit de me recadrer. Tu as un droit également de recadrer les auditeurs s'ils s'avancent sur un terrain qui ne cadre pas avec l'éthique et la déontologie. C'est ta responsabilité parce que quand ça va péter, c'est toi qui vas payer le lourd tribut. Moi, je ne suis qu'un invité. C'est pour cela que je suis d'accord quand tu me coupes, quand tu ne comprends pas exactement ce que j'ai dit et que tu me coupes. Il faudra que peut-être les auditeurs fassent l'effort. Chacun a son métier, hein. De connaître le métier des uns et des autres et comprendre leur attitude dans une certaine mesure. C'est tout cette mise au point que je voulais faire et je voulais profiter de ce dernier mercredi de l'année pour souhaiter une très bonne et heureuse année. J'espère qu'on va se retrouver. Si Dieu le veut, on se retrouvera.
Dieu le voudra bien.
Et à tous nos auditeurs, à nos lecteurs, à tous ceux qui contribuent pour l'émergence d'une presse libre.
Merci, merci. Abbas?
Oui, je voulais revenir parce que quelqu'un a parlé de la sécurité dans les marchés.
Oui.
Quand on veut renouveler un marché, il faudrait le renouveler pour qu'au moins il y ait des passages. Aujourd'hui, ce qui s'est passé,
toutes les mesures de sécurité
soient possibles. Parce qu'on a vu que le marché d'Agoyivé a été reconstruit il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. C'était des choses, mais on a refait le marché. Ils n'ont pas pensé à faire des passages parce que personne ne savait, ne sait ce qui va se passer.
Mais personne ne peut prédire un accident.
Mais il faudrait le prévoir. Il faut faire la prévention de ces accidents-là. Parce que s'il y avait des bouches d'incendie et des passages, ça devait permettre aux sapeurs-pompiers d'aller dans le marché pour pouvoir éteindre. C'est la même chose pour les autres marchés, assis au niveau de Ado Gomé et celui de Tochi dans les autres marchés. Donc, il faudrait qu'il y ait des mesures de sécurité. Donc, comme nous sommes aussi le dernier mercredi de l'année,
2023.
Je profite de l'occasion pour présenter mes meilleurs voeux de santé à tous les auditeurs et auditrices pour l'année nouvelle 2024.
Merci. Je voudrais juste remercier l'ensemble des auditeurs. Il n'y a pas de club La Presse sans auditeurs. Mais je vous prie, certains d'entre vous se donnent la peine, se donnent le devoir de nous enseigner notre métier. Comme Fabrice l'a dit, chacun fait son métier. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie.
C'est au point Robert.
Vous êtes bon dedans. Mais nous, c'est nous qui sommes les journalistes. Je vous en prie, vous pouvez nous faire des propositions. Mais quand vous donnez l'impression que c'est vous qui nous enseignez notre métier, ça fait problème. Au club La Presse, que j'anime depuis le mois d'avril 2007, nous avons connu des épreuves. Et je vous rappelle que c'est des journalistes professionnels que j'invite. Les personnes ressources ont fait leurs preuves dans des milieux avérés. Et c'est en responsable que nous animons le club La Presse. Nous faisons l'effort de dominer ou bien de maîtriser nos émotions, nos passions. Nous ne véhiculons pas de rumeurs au club de La Presse. Nous parlons de faits avérés. Je rappelle, nous ne véhiculons pas de rumeurs au club de La Presse, mais nous parlons de faits avérés. Et au club de La Presse, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas les gouvernants, nous ne sommes pas les opposants, nous sommes seulement des journalistes qui nous occupons de la veuve et de l'orphelin pour dire de la population. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain vendredi avec... Demain jeudi, et vous serez toujours avec nous pour nous accompagner. Et donc rendez-vous demain jeudi, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille.